France Info.
Bonsoir à tous. Dans le langage journalistique, on appelle cela un marronnier, un sujet auquel on n'échappe pas. Il y a par exemple, vous savez, la rentrée scolaire avec les mamans qui écrasent une petite larme au moment de laisser leur tout-petit. Il y a le reportage sur la furie des courses de Noël, le dernier week-end de décembre. Le sujet sur les résultats du bac avec les rires des reçus et la déception des recalés. Et puis il y a mon marronnier préféré, et c'est ce week-end, le chassé-croisé, le fameux moment où juilletistes et haussiens se saluent chacun d'un côté de la rambarde de l'autoroute des vacances. Alors quand vous entendrez ces reportages, ne soupirez pas en levant les yeux, pensez juste à ces journalistes qui rêvaient de couvrir les grands événements du monde et qui se retrouvent sur l'aire de Montélimar Nord. Mais je m'égare, bonsoir à vous les informés.
Bonsoir.
Je vais vous les présenter quand même un petit peu mieux, ces informés de juillet. Alexia Germont, présidente fondatrice du think tank France Audacieuse, auteur de Réveillons notre Europe. François Nornwein, journaliste à La Croix. Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale. Bonsoir. Et puis Antoine Boulet, partenaire chez Havas, spécialiste en communication de crise. On vous voit de plus en plus souvent dans ce studio, Antoine Boulet. Allez, lui, il ne prend jamais de vacances. On va commencer évidemment avec Donald Trump qui s'en prend, vous l'avez entendu, une nouvelle fois à Emmanuel Macron dans un tweet vengeur il y a, c'est quoi, une heure et demie à peu près. Il dénonçait la stupidité du président français et menace de taxer le vin national. Alors pourquoi ce courroux? Le président américain n'a pas apprécié l'imposition d'une taxe française sur les GAFA. Traiter Macron d'imbécile, est-ce que c'est un incident diplomatique, Michel Taube?
Alors ce serait un incident diplomatique avec tous les chefs d'État qui s'en prendraient à notre président, sauf avec Trump. Parce qu'avec Trump, on est habitué à ses excès de langage. On ne peut pas imaginer Trump sans ses excès. J'ai regardé certains de ses anciens Trump. Vis-à-vis de Macron, vis-à-vis de la France, il a fait beaucoup plus fort que d'accuser Macron d'être stupide.
Vous êtes déçu, quoi, ce soir.
Ouais, c'est un petit stupide, Trump, voilà, c'est un peu grossier, c'est un petit peu vulgaire, mais bon, voilà, le président Macron, il est à Brégançon, on va en parler tout à l'heure, il va pas, à mon avis, sortir de son fort pour lui dire ce qu'il pense de cette phrase. Mais il y a un an, presque un an, le 11 novembre 2018, lorsque Trump était à Paris pour fêter le centenaire, le centenaire de la Grande Guerre, deux jours après, de retour à Washington, il a commis 4 tweets beaucoup plus violents, notamment un où il avait écrit « Pendant la guerre, les Français apprenaient l'allemand et nous, les Américains, on est venus les sauver ». Ça, c'était beaucoup plus vexant, je veux dire, vis-à-vis de notre histoire et vis-à-vis de la France. Donc voilà, avec Trump, il faut s'y habituer, ça fait partie de la psychologie du bonhomme.
Donc Alexia Germont, c'est pas grave ce qui se passe ce soir?
Oh, c'est simplement la poursuite de ce que l'on a déjà commencé de voir. Moi, j'ai trouvé une réaction sur Twitter assez amusante. C'est celle de Jean-Pierre Raffarin qui, avec assez de finesse, a dit « Quand on pense que cet homme-là est notre allié, heureusement, parce que qu'est-ce que ce serait si ça ne l'était pas ?» Et c'est savoir prendre du recul maintenant.
Il n'est peut-être plus notre allié, à
c'était
mon
sur
avis.
La partie, c'était voilà. Sur la partie qui était humoristique au départ. Oui. Mais si on regarde le fond
des
choses...
Vous lisez les tweets de Jean-Pierre Raffarin?
Mais en tout cas, je les vois passer.
François Nornwein.
Ce qui est excessif et insignifiant, et Trump nous a habitués à ça régulièrement. Mais l'interrogation plus profonde, c'est l'appréciation même de son mandat, de sa présidence, de son action. Moi, ce qui me frappe, c'est les commentateurs dont je suis, quand il est arrivé à la Maison-Blanche, disaient des choses raisonnables du genre... le système politique américain est quand même formidable, tout ça se régulera, les républicains ne vont pas se laisser dévorer par l'ogre Trump, tout finalement se tassera. Or, la particularité de la présidence de Trump, il dit ce qu'il fait, il fait ce qu'il dit, et avec une régularité de métronome assez effrayante, et finalement assez destructrice pour les coopérations internationales, et tendanciellement, à mon avis, pour la paix du monde. Trump est véritablement une menace. Mais ce qui est frappant, et quand on observe le monde, c'est qu'il trouve des disciples, des gens qui pensent que ce mode de gouvernance, cette manière de réguler les relations entre nations, est la bonne méthode. Et ça, je trouve ça particulièrement dangereux. Il peut répéter des bêtises à tour de bras. Ce qui est frappant aujourd'hui, c'est l'état dans lequel il laisse le monde par ses interventions péremptoires.
Antoine Boulet, pour vous présenter, je disais que vous êtes spécialiste en gestion de crise. C'est la crise ce soir dans la diplomatie française,
non,
après
moi,
ce tweet de Trump.
J'encourage vos lecteurs à
aller... Non, c'est les auditeurs.
Vos auditeurs, pardonnez-moi, mais allez lire. C'est pour ça que j'ai ce mot en tête. Le site remarquablement bien fait de France Agrimaire, qui est l'institut qui donne toutes les statistiques, entre autres, sur l'agriculture. Et vous verrez que la part... Mon micro, a priori, ne marche pas, c'est ça mon problème ?
Non, il est un peu loin.
La part des États-Unis dans les exportations de vin français n'est que de 11%. Et d'ailleurs, les États-Unis importent davantage de vin italien que de vin français. Donc tout ça est un
Quelle
peu du spectacle.
Quelle faute de goût.
Tout
non,
ça
ils
est
sont
peu,
bons les vins.
Tout ça
ils
est un peu du spectacle. Tout ça est du spectacle. C'est du spectacle qui certainement bénéficie à Trump. Ça doit faire rire les rednecks de la Rusty Belt où on dit on va bien taper
les
Français.
Les rednecks de la Rusty Belt, là, il faut expliquer que ce sont les électeurs moyens
de Trump dans le milieu des États-Unis, on va taper les Français au portefeuille. Non, c'est 11% de l'export de vin. Et pour Macron, en revanche, c'est une bonne opportunité parce que...
C'est une bonne opportunité pour Macron,
oui, parce
là.
Qu'avoir se présenter comme le champion de la taxation des GAFA et le défenseur du vin français face au méchant Trump, tout ça, c'est du spectacle, c'est pas très important, c'est l'été.
Et puis, je vous signale que le maire a réagi ce soir. La France mettra en œuvre ses décisions nationales. C'est ce que nous dit Bruno Le Maire, donc le ministre de l'économie et des finances. Vous êtes nombreux à vouloir parler, vous allez pouvoir vous exprimer, mais il est 20h10 sur France Info. C'est l'heure de retrouver Lauriane Delanoë pour un tour de l'info.
62 corps repêchés au large de la Libye par les secouristes du Croissant Rouge. Les corps de migrants morts hier dans le naufrage de leur bateau. Plusieurs dizaines de personnes encore portées disparues. Le ministre de l'économie vient de répondre à Donald Trump. La France mettra en œuvre ses décisions nationales sur la taxation des géants du numérique. Voici ce qu'affirme Bruno Le Maire ce soir. Alors que le président américain menace de représailles peut-être sur le vin français, il parle sur Twitter de stupidité d'Emmanuel Macron avec cette taxe GAFA. Elles sont polluées au plomb depuis l'incendie de Notre-Dame de Paris. Deux écoles élémentaires et une maternelle situées près de la cathédrale resteront fermées jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que le taux de plomb redescende à un seuil acceptable. Ce groupe scolaire accueillait des enfants en centre de loisirs pour les vacances. À deux jours de l'arrivée à Paris, Julian Alaphilippe perd son maillot jaune et Thibaut Pinot abandonne, blessé sur le Tour de France. 19e étape terrible pour les Français aujourd'hui et spectaculaire. Elle a été arrêtée définitivement à une trentaine de kilomètres de Tignes à cause d'une averse de grêle et d'une coulée de boue sur la route. Météo France qui redoute de nouvelles coulées demain dans les Alpes avec de fortes pluies et des orages dès ce soir. 27 départements en vigilance orange pour orages et ou canicules de la région Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'au Grand Est.
France Info. 20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde.
Premier débat des informés ce soir, on revient sur ce tweet du président américain. Alors, non seulement Donald Trump traite de stupide Emmanuel Macron, mais il menace de taxer désormais le vin américain. Michel Taube, est-ce qu'il n'y a quand même là pas un petit risque pour nos viticulteurs nationaux ?
Oui, bien sûr qu'il y a un petit risque. C'est sûr que si la France entrait dans un bras de fer commercial avec les États-Unis, que ce soit sur les vins ou d'autres produits, on est perdant d'avance parce que les Américains ont quand même une puissance très forte. Et d'ailleurs, Donald Trump joue là-dessus. Donald Trump se nourrit de concurrence commerciale, de guerre commerciale. Il l'a fait avec le Mexique, il l'a fait avec le Canada, il le fait avec la Chine, il le fait avec la France, il va le faire avec l'Union européenne. L'Union européenne qu'il n'aime pas du tout.
C'est oui, pour ça que je disais,
c'est clair. Et c'est nouveau dans la diplomatie américaine. C'est nouveau.
Jamais les Américains ont aimé l'Union européenne. Mais enfin,
à ce point-là, ils étaient attachés. Notamment, ils ont beaucoup aidé à la création de l'Union européenne. Ils étaient très attachés à renforcer l'Union européenne. Donald Trump, lui, il est dans une logique d'explosion de l'édifice communautaire, et il soutient des Boris Johnson, le nouveau Trump européen, pour ne citer que lui.
Antoine Boulet.
Oui, juste sur le vin, pardon de le redire, mais le premier importateur de vin français, c'est l'Allemagne, ensuite la Chine, ensuite le Royaume-Uni et enfin les USA. Donc une fois encore,
C'est en volume, mais c'est pas en valeur.
Non, c'est en valeur aussi. Ça, c'est un peu de la posture. Ça veut pas dire que c'est pas un marché important, mais ça veut dire qu'en tous les cas, on n'est pas complètement dépendant des États-Unis dans ce débat.
Alexia Germont.
Et par rapport à la réaction de Bruno Le Maire, il ne pouvait être que dans cette lignée-là, de toute façon, parce qu'on savait depuis le départ que lorsque l'on a mis en œuvre la taxation du point de vue national, on était plus isolé que si on l'avait fait au niveau européen, et ça a été déjà pesé dans la balance au moment où ils ont lancé quand même la taxation.
Mais donc c'était prévisible, enfin c'était prévu
En tout cas, c'est de bonne guerre, c'est prévisible. Quand on connaît la façon dont Donald Trump gère justement finalement dans des relations qui deviennent bilatérales et non plus dans un multilatéralisme accepté. C'est ce que vous disiez en d'autres termes.
Mais sur la question précise des guerres commerciales, il faut arrêter, nous, d'avoir peur bêtement. Les guerres commerciales qu'engage Donald Trump ont des effets aux États-Unis très critiques pour son mandat, sa présidence. Les agriculteurs producteurs de soja ne voient pas d'un très bon œil la guerre commerciale engagée avec la Chine.
Trump peut s'appuyer sur un bilan économique
qui est bon.
Il est bon, c'est vrai.
Écoutez, on peut doper artificiellement l'économie à très court terme, mais les effets se font sentir à plus long terme. Sur la question de la guerre commerciale dans le soja, il provoque une hostilité chez les producteurs de soja américains.
Le vrai ennemi de Trump sur la guerre commerciale, c'est la Chine. Et tout porte à croire que, à la faveur d'une deuxième élection, d'un deuxième mandat, pour le moment, il y va, si vous me passez l'expression, mollo, parce que, comme vous le dites très justement, François, les conséquences sur l'économie américaine sont déjà importantes, mais qu'après une deuxième élection, où il sera encore plus libre, j'allais dire, il aura une stratégie de taper encore plus fort sur la Chine, avec des conséquences sur son économie intérieure encore plus importantes. Maintenant, c'est sa stratégie. Il pense que nous avons été trop doux avec la Chine. Et de ce point de vue, on peut le considérer, pour des tas de raisons, fou, insensé, etc. Sur ce point précis, il faut bien reconnaître qu'il a un point.
En tout cas, on a eu les French fries avec sous Jacques Chirac au moment où 2020 disait on n'ira pas en Irak avec le mensonge de Trump. Là, maintenant, on a les French wines. Parce que quand même, c'est pas la première fois qu'il nous épingle Trump sur le vin français. Moi, j'en ai vu au moins 3 des tweets où il parle de vin. Donc apparemment, il a ça en ligne de mire. Il y a peut-être aussi pour lui des enjeux nationaux aux États-Unis. Parce qu'encore une fois, c'est pas un marché forcément décisif, mais enfin, c'est quand même important. Le vin français, c'est quand même une marque. Et
C'est plus large.
Voilà, donc il y a quand même des enjeux, il ne faut pas le prendre à la légère. Et alors, une chose que je ne savais pas, c'est que dans son tweet, il dit que le vin américain est meilleur que le vin français, mais en même temps, il est connu pour boire très peu de vin, voire pas du tout.
Je me demande d'où
il tire cette information.
En tout cas,
qui est totalement fallacieuse.
Le Coca-Cola américain est meilleur que le Coca-Cola français.
Un point de c'est lequel le Coca-Cola français?
Dites-moi le nom de la marque du Coca-Cola français.
Brescola.
Voilà. Mais Foolishness, pour moi, n'est pas stupide, c'est insensé. Donc, dès qu'il l'insulte, je trouve ça, en termes de traduction, un peu excessif.
Allez, 20h16, on passe à notre deuxième sujet. On va moins rire. Hein. C'est la pire tragédie en Méditerranée cette année qui vient de se produire. Réaction de Filippo Grandi, c'est le haut commissaire de l'ONU pour les réfugiés. Après le naufrage d'un bateau transportant des migrants, 100 personnes étaient portées disparues. Vous l'avez entendu, 62 corps ont été repêchés. Le drame s'est produit à proximité de la côte libyenne. Un drame de plus, pourrait-on dire, hein, car on estime que depuis 5 ans au moins, 18 000 migrants sont morts en Méditerranée. François Ehrenwein, face à cette situation, est-ce que on peut faire quelque chose ?
Je pense qu'on regrettera, les nations européennes, la communauté regrettera dans 10 ans amèrement de ne pas s'être saisi correctement de cette question, de ne pas avoir coopéré pour accueillir les migrants, parce que l'enjeu c'est ça. Face à cette pression migratoire, il ne faut pas se raconter d'histoire. Le flot ne s'arrêtera pas parce que on tient des discours, on prononce des rodomontades qui ne serviront à rien. La pression migratoire est une réalité. Elle est née, on pourra, dans la conversation, en analyser les causes, et notamment les guerres que l'Occident a provoquées en Libye, en Irak ou ailleurs. Toute cette affaire est une affaire qui nous concerne directement et pour laquelle on serait bien inspiré de conduire des politiques bien meilleures que celles...
Ce que vous nous dites, c'est qu'il faut ouvrir les frontières.
Je pense
qu'en tous les cas,
qu'il faut organiser l'accueil. Or, la plupart des pays européens ont bien du mal à organiser cette coopération en faveur de l'accueil.
Alexia Germont.
Je crois qu'il n'y a pas que l'accueil, en fait. Quand on regarde le sujet, il y a la question, d'ailleurs c'est comme ça que l'Union européenne le traite, hein. Vous avez la question des gardes-côtes libyens, puisqu'il y a des accords, il y a une validation par l'Union européenne de l'accord qui avait été conclu entre l'Italie et la Libye, justement pour former les gardes-côtes libyens. Vous avez la question du sauvetage en mer, qui d'ailleurs, à l'occasion de cette tragédie, est réclamée à nouveau, hein, par le Haut-Commissariat des Nations Unies. Et puis, vous avez la question du mécanisme de solidarité. Ce sont les trois points qui sont à traiter.
Mais
si vous n'en traitez qu'un, vous ne risquez pas de régler le sujet. Parce que dans le mécanisme de solidarité, ce qui est triste, c'est de voir que cette tragédie arrive, alors qu'il y a 4 jours, il y a eu cet accord franco-allemand qui a démarré, en fait, avec 8 pays, a priori, qui sont aujourd'hui vraiment très impliqués, et peut-être même 14, pour mettre en place le mécanisme de solidarité. Et j'ajoute, j'en finis là-dessus, mais il faut pas oublier que Salvini, qui d'ailleurs a continué d'insulter Emmanuel Macron sur les réseaux, à ce
en
sujet-là.
En ce moment,
beaucoup.
Qu'est-ce qui souffre Macron en ce moment?
Matteo Salvini met en place, dit que c'est parce qu'il y a l'absence de solidarité qu'il ferme ses ports. Donc si vous réglez la question du mécanisme de solidarité européen, ça met en tout cas Matteo Salvini face à ses responsabilités.
Il n'a pas tort parce que le règlement de Dublin est un règlement qui prévoit que les migrants qui sont arrivés dans l'Union européenne dans un certain pays, s'ils sont retrouvés en situation irrégulière dans un autre pays, sont renvoyés dans le pays dans lequel ils sont arrivés.
Ils sont dublinés, voilà.
Ils sont dublinés, comme on dit, ce qui met en première ligne, évidemment, l'Italie et la Grèce, et parfois l'Espagne, ce qui est absolument absurde. Mais moi, ce que je voudrais souligner, c'est que...
Ben vous savez ce que vous allez souligner? Vous allez le garder pour dans 1 minute 30,
c'est
parce
parfait.
Qu'il est 20h20, et à 20h20, c'est l'info qui prime sur France Info, avec Lauriane Delanoë.
Donald Trump va-t-il imposer des taxes sur le vin français en représailles à la taxe GAFA? Le président américain, très en colère sur Twitter, il promet des mesures réciproques contre cet impôt décidé en France sur les géants américains du numérique. La France mettra en œuvre ses décisions nationales, répond Bruno Le Maire, le ministre français de l'économie. 151 adolescents mis à genoux. Souvenez-vous de cette interpellation en décembre dernier à Mantes-la-Jolie en marge d'une mobilisation lycéenne. L'enquête confiée à la police des polices, l'IGPN, vient d'être classée sans suite. Un groupe scolaire parisien fermé hier à cause d'une pollution au plomb et il le restera jusqu'à ce que la concentration en plomb baisse. Ces 2 écoles élémentaires et 1 maternelle sont situées tout près de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Des enfants y passaient les vacances en centre de loisirs. Ils sont accueillis dans un autre établissement. Les larmes de joie d'Egan Bernal, le Colombien s'empare du maillot jaune au détriment de Julien Alaphilippe aujourd'hui sur le Tour de France. Le Français a maintenant 45 secondes de retard à la 2e place du classement général. 19e étape raccourcie aujourd'hui d'une 30aine de kilomètres à cause de la grêle et d'une coulée de boue près de Val d'Isère. Les premiers matchs de la première journée de Ligue 2 de football en ce moment depuis une 20aine de minutes. Rodez mène déjà 2-0 face à Auxerre.
France Info. 20h-21h, les informés, Olivier Delagarde.
Retour sur ce débat, cette tragédie en Méditerranée avec des migrants qui, au moins 100, auraient trouvé la mort. Je vous ai coupé la parole de manière un peu cavalière, Antoine Boulet. Vous vouliez nous souligner quelque chose, alors allez-y.
Oui, c'est un sondage réalisé par Ipsos récemment dans plusieurs pays d'Europe et qui montre que seulement 43% de nos compatriotes pensent qu'échapper à la guerre ou à des persécutions est une motivation valable pour et légitime pour venir se réfugier en France. Le seul pays d'Europe qui est à un score aussi bas, c'est la Hongrie. Et la moyenne dans le monde, il y a 61% de gens dans le monde qui pensent que la guerre ou les persécutions sont un motif valable. Comment peut-on penser, quand on voit ces personnes, ces femmes, ces enfants, ces hommes mourir dans les flots, que leur raison, leur motivation n'est pas valable de quitter leur pays? Et à quel point d'égoïsme ou d'inconscience en est-on arrivé pour avoir ce point d'insensibilité?
Dites ça aux Italiens.
Les Italiens, ils trouvent ça plus valable que nous, les Français.
Mais attendez, entre un sondage et Michel le fait Taube. De vivre concrètement un afflux massif de migrants
non, qui n'a Bah, pas si, été... c'est terminé. Il y a eu
non,
un moment. Bah,
oui, mais voilà. Enfin, oui, mais non, 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 quand attendez. Non, mais cet afflux.
Pas tous en même temps. C'est Michel Thaume qui a la parole.
Attendez, moi, je ne juge pas. Je constate juste que cet afflux, quand même, qui était très important, a conduit Salvini au pouvoir. C'est clair, net et précis. Ça a été la principale, ça a été la principale raison de son arrivée au pouvoir. Donc, ensuite, premier élément. Deuxième élément. Aucune solution n'a marché, malheureusement, pour se répartir la solidarité. Il y a une nouvelle tentative qui a été actée, comme vous l'avez dit, Alexia, en début de semaine, qui est importante, c'est et qui est d'autant oui. plus importante qu'elle fait aussi, quelque part, exploser le modèle de l'Union européenne. Parce que pour la première fois, ils assument, quelque part, une Europe à plusieurs vitesses, puisque c'est un club de volontaires qui décide de se répartir, en tout cas de tenter de se répartir automatiquement, dès qu'un migrant arrive dans l'espace européen, la charge de la prise en charge de ces personnes.
Mais ça existe dans le règlement de Dublin. Dans le règlement de Dublin, oui, il y a une possibilité de clause sur le volontariat.
Ça n'a jamais été.
Ce qu'on voit, c'est que la mission...
La commission, on parle pas tous ensemble. Terminer rapidement, Antoine Boulet, on passe la parole à Alexia Germain.
La commission précédente, Juncker, n'a pas bien géré la crise. Elle aurait pu mettre en cause cette possibilité de volontariat et faire appel à une conférence internationale, parce que la cause profonde de ces migrations, ce sont d'abord des guerres qui n'ont pas été menées par nous, mais par d'autres. Et la France, en tant que membre du Conseil de sécurité permanent, aurait pu susciter cette conférence internationale.
Donc, Alexia Germain.
Cela dit, la commission Juncker a quand même pris la mesure des choses, notamment dans son discours de l'état de l'Union, et a mis en œuvre des moyens beaucoup plus forts avec Frontex quand ils se sont aperçus qu'en fait ça faisait venir une montée du populisme. C'est pour ça que tout le monde se bouge aujourd'hui, parce que finalement on a compris enfin que ce qui s'était passé en 2015 avait produit Salvini, et que si on ne règle pas ce sujet,
on n'a pas compris parce qu'il continue à y avoir des bateaux qui coulent avec des drames et des tragédies.
Et on a toujours
des bateaux d'ONG qui font le travail qui devrait être fait par une sorte de service public, même pas européen, euro-méditerranéen.
La parole est à François.
Je pense qu'on va tomber d'accord pour dire que la prise en charge de ces drames humains et de cette pression migratoire, contrairement à ce que vous dites, un certain nombre de règles ont été engagés par les Occidentaux
et
ont provoqué une partie des déstabilisations et des migrations qu'on connaît aujourd'hui. Et sur les migrations climatiques, on a le droit de se poser les questions. Qu'est-ce que les politiques du monde occidental ont eu comme effet au Sahel ou ailleurs?
Donc ils ont battu notre coulpe.
Je termine si vous voulez bien. Je pense que maintenant il est largement temps, avec la répétition des drames, de constater que les politiques conduites jusqu'ici n'ont pas été couronnées de succès et qu'il faut passer à la vitesse supérieure, parce qu'on va continuer à assister à des naufrages en Méditerranée comme ça, en disant oui c'est déplorable mais il aurait fallu faire ça, maintenant il faut faire. Le vrai sujet c'est ça.
Non, mais évidemment qu'on a une part de responsabilité, mais la part principale revient aussi à des pays dans lesquels il n'y a pas de démocratie. Par exemple, il y a beaucoup d'Érythréens qui sont dans ces bastions-là. Mais pourquoi? Parce que l'Érythrée est un régime totalitaire, qui ne respecte pas ses habitants. Fuir. Il y a aussi la misère économique. On en a notre part de responsabilité, mais enfin, elle vient quand même de systèmes extrêmement corrompus sur le plan économique. Et tant qu'il n'y aura pas plus d'espoir dans les pays d'origine de ces migrants, nous aurons une pression migratoire. Et on n'en est qu'au début. Elle va augmenter, cette pression.
Alexia Germain, on fait souvent le procès à l'Europe, dire qu'une forme de passivité, c'est un mauvais procès qu'on lui fait?
Je crois que c'est, en fait, les choses sont beaucoup plus complexes que ça, parce que au début, l'Europe a été vraiment passive. Il y a eu un sursaut. Il y a une aide vis-à-vis de l'Afrique qui est quand même très structurée au niveau européen. Il y a ce nouveau pas qui a été fait par la formation des gardes-côtes. Évidemment, quand on dit ça comme ça à ce micro, ça paraît epsilonesque. Mais il y a une prise de conscience quand même de l'Europe que ça ne peut plus durer. Et c'est pour ça que, en fait, ce n'est même pas un triptyque. Il faut rajouter l'aide à l'Afrique, qui est véritablement une pièce très maîtresse des aides qui sont données par l'Union européenne, pour essayer d'accélérer en fait la prise en charge. Sachant qu'il y a encore la question d'une agence européenne sur l'asile, qui faisait partie des propositions françaises, qui est toujours à l'étude. Et ça, si on ne va pas dans cette direction-là, ce sera aussi une pièce du puzzle qui manque.
Antoine Boulet, enfin, ou François Nonnevay.
Ce que je voudrais nous convaincre collectivement, c'est que les solutions d'attente qui ont prévalu jusqu'à présent, même si des politiques ont été engagées, ne sont pas à la hauteur du défi et des drames qu'on vient de voir. L'intuition que j'ai, et il n'y a pas besoin d'être grand clair pour conclure ça, c'est qu'il va falloir passer sérieusement à la vitesse supérieure pour éviter qu'on continue à commenter dans les émissions radio la disparition de 100 migrants en Méditerranée, 1000 ou...
On en est à 600 en 2019, voilà. Déjà.
Un point qui n'est pas un détail. Un des gros problèmes se situe en Libye. Mais par exemple en Libye, où c'est absolument l'anarchie, et où il y a des où ces pauvres migrants sont l'objet de chantage et d'esclavage, et de violence et de torture, etc. Mais en Libye, la France a essayé de régler toute seule le problème de la Libye. L'Italie a fait ses propres démarches diplomatiques. Personne ne s'entend, personne ne travaille ensemble. Et donc il y a aussi un problème, même pas de gestion de court terme des migrants, mais même en amont et en aval, il n'y a aucune synergie des acteurs qui pourraient seuls ensemble trouver des solutions qui évitent qu'on ait trop de migrants qui arrivent sur nos côtes.
Les informer. On va faire une pause puisque on approche de la moitié de cette émission. On va écouter Météo, les infos, et puis on se retrouve dans 4 minutes pour la deuxième partie des informés.
France Info Météo, avec le CIC, banque numéro 1 au podium de la relation client 2019. CIC, construisons dans un monde qui bouge.
Sébastien Léas.
Changement de décor avec la chaleur qui va s'évacuer et le temps qui s'annonce plus menaçant. Ce soir et cette nuit, une perturbation atlantique va progresser dans les terres, donnant des pluies, notamment des bords de Loire aux frontières du Nord. Et des orages localement forts et parfois accompagnés de grêles vont se déclencher sur le centre-est. Demain, une large moitié est du pays sera concernée par un temps très nuageux à couvert, avec des passages pluvieux et même des orages. En Alsace et en Provence, les orages pourront à nouveau être porteurs de grêles. Les pluies seront localement soutenues. En Rhône-Alpes, il va même énormément pleuvoir et des cumuls abondants sont à craindre. Côté température, la chaleur va s'évacuer vers l'est et on retrouvera des températures nettement moins élevées. L'ambiance sera même assez fraîche sur la moitié ouest avec à peine 19 à 24 degrés demain après-midi. Ailleurs, il fera 24 à 28 degrés avec jusqu'à 31 degrés sur le pourtour méditerranéen.
Il est 20h30 sur France Info.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Solène Cresson que nous retrouvons pour l'info.
Cataclysmique, inédite, folle, on se souviendra de la 19e étape du Tour de France 2019. Interrompue à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée à Tignes, on a vu aussi l'abandon et les larmes de Thibaut Pinot, la perte du maillot jaune pour Julien Alaphilippe. Fabrice Rigoubert, vous nous refaites le film, à commencer donc par ces intempéries.
La route recouverte d'un manteau de grêle ne permettait pas d'assurer le passage des coureurs dans de bonnes conditions de sécurité. Une coulée de boue est même venue couper l'axe emprunté par le Tour. Les organisateurs de la course, avec les commissaires de l'Union Cycliste Internationale, ont donc décidé de neutraliser l'étape et de prendre les temps au sommet de l'Iseran, là où Egan Bernal est passé seul en tête devant Simon Yates et Warren Barguil. Le Colombien, à l'attaque dans les 5 derniers kilomètres d'ascension, est passé avec plus d'une minute 30 d'avance sur Julien Alaphilippe, battu à la régulière dans cette montée par le Colombien de 22 ans, Bernal, qui n'est pas désigné vainqueur de cette étape, mais qui endosse le maillot jaune. Les temps étant pris au sommet, il dépossède Julien Alaphilippe de la précieuse tunique pour quelques secondes au sommet. Le Français recule à la deuxième place, la troisième revenant à Geraint Thomas. Une étape marquée par l'abandon de Thibaut Pinot, cinquième avant le départ, blessé à la cuisse gauche suite à un choc contre le guidon de sa machine avant-hier. La blessure à la cuisse s'étant aggravée en début d'étape au point de contraindre le franc-comtois en larmes de poser le pied à terre au kilomètre 36. Tignes, Fabrice Rigobert, France Info.
De la neige dans les Alpes donc et jusqu'à 37 degrés attendus à l'est. La canicule quitte la France, mais très doucement. 27 départements sont en vigilance orange à la canicule, mais aussi pour certains aux orages. Soyez prudents du Cantal à la Côte d'Or. Attention aussi aux incendies. 6500 hectares ont brûlé dans plusieurs départements hier, des cultures pour la plupart. La vidéo avait fait beaucoup réagir, mais la police des polices, l'IGPN, classe finalement sans suite l'enquête sur l'interpellation de 151 jeunes à Mantes-la-Jolie en décembre dernier. Pas de comportement déviant de la part des policiers, conclut l'enquête. Sur la vidéo, on voyait des dizaines de jeunes à genoux, mains derrière la tête ou menottés dans le dos, interpellés en marge d'une manifestation lycéenne. 62 corps de migrants repêchés après le naufrage d'hier au large de Homs en Libye. 145 ont pu être sauvés, mais 110 étaient portés disparus. Selon le haut commissaire de l'ONU aux réfugiés, c'est la pire tragédie en Méditerranée cette année. On connaissait tweet acerbe, surprenant. Cette fois, Donald Trump s'en prend à Emmanuel Macron. Il dénonce la stupidité du président français après le vote du Parlement sur la taxe GAFA pour les géants du numérique. C'est une première en Europe, mais qui ne plaît pas du tout à Donald Trump. Il annonce en représailles qu'il taxera en retour le vin français. Ce soir, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, lui répond « La France mettra en œuvre ses décisions nationales ». Il avait tenu l'un des rôles principaux dans le rapprochement historique entre Cuba et les États-Unis fin 2014. Le cardinal Jaime Ortega est mort aujourd'hui à l'âge de 82 ans. Il avait aussi pesé de tout son poids dans le dialogue entre Église et autorités cubaines. 20h33 sur France Info, la suite des informés avec vous, Olivier Delagarde.
20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde.
Et toujours en compagnie ce soir d'Alexia Germont, présidente fondatrice du think tank Audacieuse, auteur de Réveillons notre Europe, François Hernandwein, journaliste à La Croix, Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale, et Antoine Boulet, partner chez Havas, spécialisé en communication de crise. Je vous le disais tout à l'heure, il flotte comme un petit parfum de vacances en ce moment, même dans ce studio où les informés étaient un peu dissipés pendant la pause, et jusque dans les rangs du gouvernement. Si, parce qu'en ce moment, nos ministres, ils sont en train de préparer leurs valises. À partir de demain, les membres du gouvernement sont effectivement autorisés officiellement à prendre quelques jours de repos. Alors, retour impératif le lundi 19 août. Il faut effectivement savoir que ces vacances sont encadrées par une circulaire du secrétariat général du gouvernement. Elle précise que les ministres doivent être en permanence joignables. On mérite des vacances quand on est ministre, François Hernandwein.
Bah certainement, moi je leur en souhaite d'excellentes. Je pense qu'ils ont le droit de se reposer. Ils ont eu une année agitée, on va dire, notamment avec les Gilets jaunes. Il y avait quelques sujets de préoccupation, donc qu'ils se reposent. Alors moi, ce qui m'amuse toujours dans ce moment-là, c'est les stratégies de communication politique qui accompagnent les départs en vacances. On part en vacances, mais on va travailler quand même. On part en vacances, mais on va suivre les dossiers les plus importants. La communication de l'Élysée tourne autour de ça. Donc, on voit bien que la tentation est de mettre en scène quand même une activité, même au moment du repos. Ce qui est un peu schizophrénique comme comportement. On leur souhaite de se reposer et ils reviendront en forme peut-être.
Ce qui est marrant, c'est qu'on a l'impression qu'on oscille chaque année entre deux volontés. La première, de dire que les ministres sont en vacances parce que ce sont des gens et des Français comme les autres. Et puis la deuxième, parce qu'ils sont toujours là, parce que le service de la France est au-dessus de tout. Michel Taube.
Ils ne sont pas les seuls. D'après un sondage, près de 70% des Français se disent incapables de totalement décrocher, de penser à leur travail, et notamment à cause de leur téléphone portable. Donc quelque part, ils sont comme nous. Après, quand même, j'aimerais dire une chose. Ils prennent un peu plus de vacances que les Français, nos chers ministres, puisqu'en fait, ils prennent 20 jours de vacances, alors que la moyenne est plutôt de 2 semaines pendant l'été pour les Français. Et elle a même, d'ailleurs, cette moyenne, elle a un peu baissé ces dernières années. Donc là, ils ont droit à quelques jours de plus. Ils s'autorisent à quelques jours de plus que les Français. Mais effectivement, ce sont des femmes et des hommes comme tout le monde. Ils ont besoin de prendre un peu de recul, de peut-être bien préparer aussi leur entrée, parce qu'elle risque d'être assez chaude. Et enfin, dernier point.
Ça, on dit toujours ça de la rentrée. Hein. Alors là, oui, présentez-moi.
Elle le sera.
On annoncerait qu'on va avoir une rentrée tiédasse. Ça n'existe pas.
C'est comme un budget qui est toujours impossible à boucler.
Voilà.
Ça fait partie des marronniers.
Alexia Germont, quand même, on leur dit ils ne doivent pas s'éloigner à plus de 3 heures de Paris. C'est pas très drôle quand même de ne pas pouvoir voyager quand on...
Je trouve ça normal parce que vous avez la permanence qui est mise en place au sein des ministères, mais vous êtes quand même à la tête d'une responsabilité et c'est normal que vous puissiez revenir. En fait, c'est la théorie du en même temps appliquée aux vacances. C'est la même chose, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit à la fois studieux mais reposant. Et si on prend un petit peu plus de recul, je crois que les Français auraient envie de voir des vacances qui soient surtout calmes, décentes, proche, pour qu'il puisse avoir un
pas
effet...
Pas manger trop de homards.
Voilà,
quoi,
avoir un effet miroir. Parce que la rentrée, qui ne sera certainement pas tiédasse, comme vous disiez, quand on y pense, vous allez quand même avoir une rentrée déjà fin août, où là, notre pays va être le centre du monde pendant quelques jours, avec le G7 à Biarritz. C'est très important, et pour la première fois,
même
c'est quand
si
même...
Biarritz, c'est encore un petit peu des vacances, mais enfin bon...
Oui, alors là, je crains que pour l'État, ça ne le soit pas. Hein,
puis
il
y aura des contre-manifestations de
G7 qui vont
risquer
d'être
très violentes.
Du point de vue de la sécurité, je pense que ça va être une rentrée un peu difficile.
Les habitants de Biarritz font...
Donc ils ont bien raison de se reposer.
Exactement. Et la rentrée parlementaire sera très lourde.
Antoine Boulet, vous êtes bien silencieux. Je vous sens déjà en vacances.
Non, je ne suis pas en vacances, mais je pense que cette volonté de mettre en scène l'activisme, les vacances, en effet, c'est très important. Et les Français, comme leurs ministres, ont besoin et doivent décrocher pour avoir un regard, une vision. Moi, je suis frappé, que ce soit pendant les vacances ou pendant l'année, de la mise en scène permanente de la suractivité, les visites de terrain, la présence sur le terrain. Mais ce n'est pas sur le terrain. Quand un ministre fait une visite, il ne fait rien. C'est quand il est dans son bureau qu'il fait des choses. Donc, et quand il est en vacances, c'est très important que son cerveau, ses muscles, ses nerfs se reposent pour pouvoir être réellement au service du pays. Et il y a une forme de voyeurisme, un peu de fascination, de pipolisation de la politique sur qu'est-ce que tu fais pour les vacances. Le président de la République, c'est différent. Il assure la permanence à la fois symbolique et réelle du fonctionnement de l'État. Donc, qu'il soit toujours joignable, qu'il soit toujours ça fait partie.
Il passe ses vacances dans un fort, en plus.
C'est quand même, voilà, pour cinq ans, c'est la vie. Mais les ministres, il faut qu'ils puissent prendre du recul. Et nous, les Français, il faut qu'on apprenne à ne pas avoir envie du spectacle des ministres au travail. Laissez-les bosser, je vous assure. J'en ai fait l'expérience. Il faut du temps. Avoir une demi-heure pour se poser, c'est un exploit. C'est absurde. Comment voulez-vous gérer un pays comme ça?
Michel Daube.
Fort de Brégançon, on se rappelle François Hollande qui, en 2012, pour ses premières vacances de président de la République, président normal, avait commencé la chute dans les sondages parce qu'il était en maillot de bain, mais pas loin, et ça avait complètement choqué l'opinion publique.
Moi, je me souviens des vacances de Jacques Chirac au fort de Brégançon avec des jumelles.
La chaussette, c'est remarquable. Mais c'est vrai qu'il marche beaucoup. Toute cette histoire est partie de la canicule 2004 où Mattei, parce qu'il s'est fait prendre en interview vidéo en multiplex dans son jardin en polo, ça lui a effectivement coûté son poste de ministre. Donc la question de l'image au sens strict de ce qui se voit est très important, mais c'est aussi une maladie de notre démocratie parce que ce qui se voit, en fait, l'essentiel est invisible pour les yeux.
Alexia Germain.
Oui, vous parlez de pipolisation de des vacances. Je ne suis pas certaine que les Français soient là-dedans maintenant. C'est certainement un marronnier parce que effectivement, on sait qu'on part aujourd'hui. On part aujourd'hui, mais qu'il va y avoir cette rentrée un peu plus courte que d'habitude. Je crois que la crise des Gilets jaunes est passée par là aussi et qu'il y a une sorte... Je vous parlais d'essence dans les vacances. Je ne pense pas que ça soit forcément si bienveillant que ça et avec un intérêt people.
Bien sûr, non, mais quand je dis c'est négatif, oui, bien sûr.
Et soit dit en passant, il y a une exception au gouvernement, un ministre qui pourra faire un voyage de plus de 3 heures de Paris.
Annick Girardin.
Ouais, qui va pouvoir aller à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Peut-être qu'elle aurait. Elle est députée.
Elle aurait peut-être aimé, voilà. Interdite de retourner.
Je voudrais confirmer à tous qu'il est parfaitement possible de passer d'excellentes vacances à 3 heures de Paris.
Évidemment,
Paris, le désert ne commence pas au-delà du périphérique.
Cela va sans dire. Et vous pouvez lire La Croix chaque matin. D'ailleurs, ça vous fera du bien. 20h40, l'info. Lauriane Delanoë, on se retrouve juste après.
Le Colombien Egan Bernal s'empare du maillot jaune avec précisément 48 secondes d'avance sur Julian Alaphilippe, désormais deuxième. Les commissaires du Tour de France viennent de rendre le classement général officiel après la 19e étape mouvementée et coupée. Aujourd'hui, les chronomètres arrêtés au sommet du col de l'Iseran. La route était impraticable plus loin à cause d'une coulée de boue et de la grêle. Deux centres de loisirs vont rester fermés jusqu'à nouvel ordre dans Paris. Ces centres, situés dans des écoles tout près de Notre-Dame, ils sont pollués par du plomb depuis l'incendie de la cathédrale. Un nettoyage complet et approfondi réalisé aujourd'hui dans la cour d'après la mairie. Plus de 6500 hectares de forêts et de champs brûlés hier en France en pleine journée de canicule. 8 feux étaient toujours actifs aujourd'hui dans l'heure. L'ensemble du territoire est concerné par le risque d'incendie, prévient sur France Info le président de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers. En cause, la sécheresse. Des villes et villages entiers vidés de leurs habitants, 400 000 personnes déplacées en 3 mois en Syrie. Elles ont fui les bombardements du régime et ses alliés contre les djihadistes dans le nord-ouest du pays. L'ONU dénonce l'indifférence de la communauté internationale. Le ministre français de l'économie se montre ferme face aux menaces de Donald Trump. La France mettra en œuvre ses décisions et donc la taxe sur les géants du numérique, assure ce soir Bruno Le Maire. Sur Twitter, aujourd'hui, le président américain promet des représailles possiblement sur le vin français exporté aux États-Unis.
France Info.
20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde.
Et c'est presque en train de devenir un marronnier journalistique. l'EPR annonce un nouveau retard. La mise en service de la centrale nucléaire de nouvelle génération de Flamanville sera donc encore retardée d'au moins 3 ans à la suite de problèmes de soudure. Alors je vous rappelle qu'au moment du début des travaux, c'était en 2007, la mise en service était prévue pour 2012. Il y a donc 7 ans de retard déjà, plus 3 annoncés, ce qui fait 10 si mes comptes sont exacts. Alors Antoine Boulay m'a soufflé, il m'a dit, alors là sur l'EPR de Flamanville, là je sais tout, j'ai tout compris. Donc Antoine Boulay, expliquez-nous.
Non mais j'essaye de préparer parce que les informés, on est censé être informés et donc faire un travail que vos auditeurs n'ont pas forcément le temps de faire.
Mais d'abord, absolument.
D'abord, l'EPR, c'est un nouveau système de réacteur qui permet plusieurs choses. Premièrement, il est plus sûr, car l'enfermement du réacteur est plus important. Il y a un réceptacle en dessous, en cas de fusion du cœur du réacteur, qui permet de récupérer les éléments. Et troisièmement, il peut fonctionner avec du MOX, c'est-à-dire des résidus d'autres centrales recyclées. Autrement dit, on ne fait pas un nouveau réacteur pour se faire plaisir, on le fait parce qu'il y a un vrai intérêt, premièrement. Deuxièmement, il y a aujourd'hui un réacteur EPR qui fonctionne, à Taishan, en Chine, et qui a été commencé en 2009. Il a été lancé, là, il y a 6 mois, donc les Chinois ont fait plus fort que nous, alors que nous avons commencé à Flamanville en 2007. Ça, c'est la deuxième chose. Troisièmement, il y a une grande concurrence mondiale. Il y a des Russes qui ont un système qui s'appelle le VVER de Rosatom, l'Areva EDF russe. Et puis, vous avez les Chinois avec CGN, qui est le groupe chinois de développement du nucléaire, et leur modèle Hualong. Donc, tout ça est une bataille gigantesque à l'échelon mondial. Et je dirais une dernière chose, c'est que les errements auxquels on assiste aujourd'hui sont les conséquences directes de la guéguerre, il n'y a pas d'autre mot, que se sont livrés en leur temps à Lauvergeon et Henri Proglio pour prendre qui allait prendre la tête, devenir le chef de file de la filière.
C'est pour ça qu'il y a des problèmes
nucléaire
de soudure à Flamanville.
Oui, bien sûr, parce qu'en fait, il y a une désorganisation générale de la filière, et cette désorganisation générale, elle est liée à cette guerre que EDF et Areva se sont livrés pendant des années et que le pouvoir politique n'a pas su trancher parce que c'était une guerre d'influence au lieu d'être une guerre de performance et de compétence. Eh bien, c'est nul. Voilà,
après cet exposé du professeur Boulay, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Est-ce que, Alexia Germont, EDF ne s'est pas fourvoyé avec cette EPR ?
En tout cas, il y a une vraie question. Et la question a été posée par Bruno Le Maire lorsqu'il a demandé donc un
moi
audit.
Moi aussi, je la pose, voyez.
Oui, oui, mais il a été. Il a demandé un audit. Pourquoi ? Parce que cette filière de l'EPR, c'est 200 000 personnes, quand même. Et en fait, il faut comprendre à la fois pourquoi le choix de l'EPR a été fait, donc ça c'est plutôt par rapport aux explications qui viennent de nous être données. Il faut comprendre pourquoi il y a des malfaçons, et puis il faut comprendre aussi l'attitude, je trouve, aussi d'EDF aujourd'hui pour gérer cette crise est intéressante à analyser. Pourquoi ? Il faut savoir que ces soudures ont été réclamées, bien sûr, par l'autorité de sûreté nucléaire. Jusque-là, c'est tout à fait logique. Et en fait, EDF a souhaité demander dans un premier temps le droit à l'autorité de sûreté nucléaire de différer en fait les soudures une fois après la mise en œuvre. Et l'ASN...
C'est-à-dire que vous faites partir la centrale nucléaire et vous faites les soudures après.
Oui, vous faites les soudures après. Et ça, je trouve que du point de vue d'EDF,
c'est
juste stupéfiant.
C'est
juste stupéfiant.
Je ne suis pas un grand spécialiste,
exactement.
Mais enfin, ça me paraît curieux.
Et donc l'ASN a dit non, on ne peut pas prendre ce risque-là, mais il faut savoir que c'était quand même la demande initiale d'EDF. Et dernière chose, je finirai là-dessus, pourquoi ça décale d'autant finalement ? Parce que là, on se reprend encore 3 ans. Tout simplement parce qu'il faut d'abord préparer les techniques d'intervention, parce que les soudures sont à faire entre deux blocs, en fait. Il faut les effectuer, les tester, et ensuite, après encore, les valider par l'autorité de sûreté nucléaire. Donc c'est pour ça que tout ce processus met tant de temps, dès lors qu'il y a une décision qui est prise aujourd'hui.
Michel Taube.
Au-delà de toutes ces explications qui sont vraiment très intéressantes, ce qui m'inquiète énormément, c'est que EDF se met en danger. Le mastodonte EDF, ce joyau de la République et de l'industrie française, est affaibli, est fortement affaibli. Déjà, Areva, on a quasiment perdu avec Areva qui est extrêmement fragilisé sur la partie nucléaire, mais EDF, là, se retrouve en situation très très difficile. Les intérêts de retard en Finlande sont considérables. Hinkley Point en Grande-Bretagne, pareil.
Alors la Finlande, ça devrait ouvrir l'année prochaine.
Oui, enfin, ça va ouvrir. Attendons de voir si, si ça ouvre. Ça donc c'est absolument considérable. Et les explications technologiques que vous nous avez présentées, Antoine, le problème c'est qu'elles sont quand même largement, pour le moment, théoriques. Et que j'aimerais rappeler, moi, le témoignage qui était quand même assez glaçant de l'ex-directeur financier d'EDF, Thomas Piquemal, qui a démissionné en mars 2016. Et il a été auditionné par la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale quelques mois après. Et il a dit clairement, déjà à l'époque, en 2016, que les risques financiers encourus par EDF sont considérables et mettent l'entreprise, déjà il y a 4 ans, en danger. 4 ans après, on ne sait toujours pas si la solution technologique est faisable. Et le risque, ça peut aller très très vite. Ça peut aller très très vite pour des mastodontes capitalistiques. Ça peut vraiment mettre en danger EDF.
François Nunwein, est-ce qu'il y a un plan B?
Ben, à ma connaissance, pas, mais je suis pas expert comme mes confrères de ces questions-là. Donc, modestement, je dirais simplement ma consternation en termes de gouvernance que je peux le plus facilement observer. Une entreprise française, l'État est actionnaire à plus de 80%, une entreprise française se retrouve dans cette situation. On vient d'énumérer un certain nombre de dossiers où les performances ne sont pas au rendez-vous. En Grande-Bretagne ou en Finlande. Donc, quel que soit le génie français ou les vertus de la technologie française, il faut se poser la question, comment est-ce que tout ça a été géré? On a parlé des rivalités tout à l'heure au sommet de l'entreprise. Toutes ces questions-là sont des questions. Et je pense que le citoyen que je suis peut considérer que tout ça n'est pas le signe d'une très bonne gouvernance et que, comme citoyen, je souhaite que les entreprises nationales soient gérées correctement.
Ouais. Mais quand Michel Taube nous dit, évidemment, ça fragilise EDF, est-ce qu'il y a une possibilité de changer de cheval, d'arrêter l'EPR? On a déjà dépensé presque 11 milliards pour cette centrale.
C'est peut-être justement parce qu'il n'y a pas de plan B qu'ils continuent à s'entêter, parce que quand même, tout le monde exprime des inquiétudes depuis des années. Et donc, on va peut-être, non pas vers une catastrophe nucléaire, mais vers une catastrophe industrielle et financière.
Alexia Germain.
Oui, puis il faut rappeler quand même que la fermeture de Fessenheim a vraiment été actée par François de Rugy, alors qu'on aurait pu imaginer que Fessenheim dure encore un petit peu. Et en fait, non, puisque ça a été vraiment acté avant son départ.
Mais pour une raison politique, là, peut-être plus que pour une raison industrielle, en fait.
Non, mais c'était lié avec la mise en service quand même de l'EPR qui devait prendre la suite. Les deux dossiers sont liés. Or là, je dis simplement qu'on a déjà pris une décision sur Fessenheim.
Allez, on se retrouve dans quelques instants pour notre dernier débat du jour. 20h50, l'essentiel de l'info, c'est avec Lauriane Delanoë.
Trop de poussière de plomb dans la cour d'un groupe scolaire parisien tout près de Notre-Dame de Paris. Ces deux écoles élémentaires et une maternelle transformées en centre de loisirs pour l'été restent donc fermées jusqu'à nouvel ordre. La mairie dit qu'elle va continuer à laver. Les proches de Mamoudou Barry, des élus et en tout 1400 personnes rassemblées à Rouen cet après-midi. Une marche blanche en hommage à cet universitaire guinéen tué, roué de coups il y a une semaine en pleine rue. Le suspect placé en hôpital psychiatrique en début de semaine, le parquet a retenu le caractère raciste de l'agression. L'enquête de la police des polices sur l'interpellation de 150 lycéens à Mantes-la-Jolie classée sans suite. Annonce du parquet de Nanterre ce soir. En décembre dernier, ces jeunes avaient été alignés, mis à genoux en marge d'une mobilisation contre la réforme des lycées. Un policier avait filmé l'interpellation. Les secours libyens ont repêché 62 corps au large de la Libye, des migrants tués dans le naufrage de leur bateau hier en mer Méditerranée. Des dizaines de personnes encore portées disparues. Le géant Apple doit fabriquer les pièces de ses ordinateurs aux États-Unis et non plus en Chine s'il veut éviter les conséquences d'une guerre commerciale. Donald Trump, le président américain, l'affirme aujourd'hui sur Twitter. Apple n'aura pas de traitement de faveur sur les tarifs douaniers.
France Info.
20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde.
Je vais vous faire un aveu, les informés, je vous ai trouvé très bon ce soir, et je ne fais pas souvent des compliments, mais inutile de vous le dire, la vraie vedette des informés ce soir, c'est Donald Trump. Parce qu'on a commencé à parler avec lui, mais on va terminer, les informés, avec le président américain. Donald Trump qui ne menace pas seulement de taxer le vin, il veut aussi boire à la paille. Vous avez vu ça? Des pailles en plastique pour financer la future campagne du président américain. Parce que vous savez que les élections sont dans 16 mois, qu'il faut trouver de l'argent. Et pour en récolter, Donald Trump a décidé de vendre non seulement des mugs et des t-shirts à son effigie, mais aussi des pailles en plastique. Une façon pour lui de dire aux écologistes tout le mal qu'il pense d'eux. D'ailleurs, Donald Trump s'en est expliqué. Écoutez.
Je crois effectivement que nous avons de plus gros problèmes que les pailles en plastique. Mais qu'est-ce que vous pensez des assiettes, des emballages et de toutes ces choses plus grosses faites avec le même matériau?
François Hennenwein, nouvelle provocation de Donald Trump?
Mais c'est... si c'était pas ridicule, ça serait franchement drôle. Je reviens à quelque chose que je disais tout à l'heure. Moi, je n'aime pas trop m'attacher aux saillies du président américain qui ont quand même un intérêt limité. J'essaye de comprendre quel est le projet porté là derrière. Et il a été très bien analysé par Bruno Latour, qui a expliqué dans un livre « Où atterrir ?» que la logique américaine, comme le Brexit, d'ailleurs, c'est exactement la même à l'œuvre. Vous avez une nation avec son président qui dit « on va se sauver tout seul, on ne va pas entrer dans les combats mondiaux qui nécessitent une coopération sur l'environnement ou sur plein d'autres questions ». C'est-à-dire on va ériger l'égoïsme en principe. Et avec cet égoïsme, on va avancer dans le débat en trouvant des clients se réjouissant de choix très égoïstes. Sur la question des pailles, on trouvera les fabricants de pailles en plastique se réjouir de cette décision du président des États-Unis. Est-ce que c'est ça l'enjeu à l'échelle de la planète? Est-ce que c'est ça l'enjeu des coopérations internationales? Je n'aime pas être caricatural dans mon propos, mais je continue à penser que cet homme est dangereux et qu'on ne fait pas assez attention aux conséquences, y compris de ces plaisanteries de café du commerce.
Michel Taube, ce climato-scepticisme, disons ça comme ça, affiché, affirmé par Donald Trump, il résonne bizarrement quand même.
Il résonne bizarrement, mais il correspond aussi à son électorat. C'est-à-dire qu'il y a des régions des États-Unis qui ont voté largement pour Trump et qui sont totalement contre les enjeux climatiques. Mais ils le sont aussi pour des raisons d'emploi, pour des raisons industrielles. Nous, en Europe, on n'a pas voulu développer le gaz de schiste et le pétrole de schiste à cause des dangers climatiques. Aux États-Unis, ils y sont allés à fond. Ça a créé des centaines de milliers d'emplois. Ils ont fait des choix stratégiques qui sont dommageables sur
C'était
le plan
Obama
environnemental.
Qui parlait du mais miracle qui, des gaz de schiste.
Oui, mais qui peuvent se comprendre dans une logique économique d'intérêt égoïste et qui est celui de donner des emplois à tous les Américains. Après, il y a aussi un syndrome, je trouve, un syndrome du climatiseur, c'est-à-dire que les Américains, comme dans certaines autres régions du monde, on se protège contre la menace climatique en mettant des climatiseurs partout qui permettent de ne pas voir que le réchauffement climatique produit des effets extrêmement nocifs. Mais c'est évidemment une impasse, puisque ça va encore entraîner d'autres conséquences climatiques beaucoup plus fortes. Mais enfin, dernier point, je voudrais dire, les pailles en plastique. C'est peut-être mieux d'assumer aussi de dire on va vendre des pailles en plastique pour financer une campagne électorale que d'avoir des ministres dans certains pays européens qui nous annoncent depuis 10 ou 20 ans qu'on va en finir avec le plastique, qu'il ne va plus y avoir de sacs plastiques alors qu'il y en a toujours autant et qu'on n'arrive pas à mettre aussi en place des politiques écologiques véritablement efficaces sur le terrain.
Alexia Germain.
Si on continue d'essayer de prendre du recul, il faut quand même garder en tête que Donald Trump détricote méthodiquement en fait la deuxième partie du mandat d'Obama où il avait pris un certain nombre de mesures qui allaient quand même dans le bon sens. Ce qu'il faut savoir, et ça me paraît être quand même source d'espoir, c'est qu'il y a une véritable résistance qui s'organise aux États-Unis. C'est une résistance qui vient à la fois des entreprises privées qui ont décidé qu'elles seraient, elles respecteraient, parce qu'elles voient bien que c'est leur intérêt, donc qu'elles respecteraient notamment l'accord de Paris. Il y a la résistance d'un certain nombre de grandes villes.
D'États,
de gouverneurs qui osent affronter en fait l'État fédéral pour pouvoir continuer d'aller dans
l'industriel
dans le bon sens.
De l'automobile
et
aussi.
D'industriel, tout à fait.
Mais Antoine Boulay, toujours est-il que Donald Trump a toutes les chances de rester président américain et d'être élu pour un deuxième mandat.
Bien sûr, il a toutes les chances parce que là, on a eu les statistiques de la croissance au premier trimestre qui restent tout à fait convenables puisque c'est une croissance de 0,5% à comparer au 0,3% français. Elle ralentit, cependant, il faut le dire, mais elle reste convenable car il a toujours fait de la croissance d'une part et des résultats de la bourse d'autre part les critères de son succès. Donc de ce point de vue-là, il réussit. Maintenant, je pense, vous savez, ça fait pencher à cette chanson de Sting qui s'adressait à l'époque, les plus jeunes qui nous écoutent ne s'en souviennent pas, au président Brezhnev et Reagan,
j'espère
en disant
que...
I hope the Russian love their children true. J'espère que les, je sais, je crois que les Russes aiment leurs enfants aussi. Eh bien, la société civile américaine, comme vient de le dire la présidente de la France audacieuse, elle aime aussi ses enfants et elle sait que le plastique, la biodiversité, le plastique, c'est pas tellement une question de climat, ça a des conséquences climatiques, mais c'est d'abord une question de biodiversité, de santé de la faune. Eh bien, ce sont des gens qui aiment la nature, comme nous tous. Il suffit d'aller dans le Maine, dans le Vermont à l'automne pour voir ces immenses forêts rougies par ces feuilles qui s'apprêtent à tomber, pour savoir qu'on ne peut pas être américain et ne pas aimer la nature.
Bon, je ne vais pas me faire le défenseur de Donald Trump, je ne vais pas me faire écharper, mais en même temps, c'est vrai, pourquoi est-ce qu'on nous présente depuis un ou deux ans maintenant les pailles en plastique comme le véritable fléau du 21e siècle ? Mais... On ne nous parle pas des assiettes en plastique, des gobelets en plastique, des... Il y a un petit côté un peu bizarre.
Je crois qu'il faut bien comprendre dans ces batailles-là, il y a plein d'enjeux symboliques. C'est-à-dire, il y a des moments où vous reculez sur tel ou tel aspect, c'est pas forcément décisif, mais ça marque la volonté d'avancer. La bataille qui est menée aujourd'hui, il y a plein d'autres sujets qui concernent l'environnement, qui nécessiterait un engagement et des
aussi
mesures...
Aussi fort que pour les pailles.
Voilà, non, aussi fort que pour les pailles.
Et vous avez des cotons-tiges. Aujourd'hui, vous achetez des cotons-tiges en bois.
En bois.
Et ça marche très bien. Et les pailles, vous avez des pailles en carton. Et ça marche très bien. Donc c'est
même si on a un petit bout de carton.
Les amis de Trump disent que les pailles de gauche ne fonctionnent pas.
Mais on continuerait bien pendant une deuxième heure. Malheureusement, ça ne va pas être possible. Merci en tout cas à vous quatre. Un petit mot quand même de la Une de la Croix de demain. François.
Une de la Croix est consacrée
Attendez, réfléchissez. La Une de l'Opinion.
C'est bon, c'est bon.
La Une d'Opinion Internationale, ce sera sur les vacances gouvernementales. Ce marronnier dont vous parlez.
François Hollande va retrouver ses esprits. La Une.
Dans ce journal très riche, La Une est consacrée à la magnifique église du plateau d'Assy. Voilà, un endroit où il faut aller.
En vacances.
Se ressourcer.
Bonne soirée à tous. À bientôt. L'info continue sur France Info.